Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous, c'est Adrien, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast NBA Dunk Hebdo où ça y est, on va rentrer dans la hype de ces fins de playoffs, on va remettre les post-mortems un peu plus tard, on va parler des 4 équipes encore en lice aujourd'hui. Pour ça, tout d'abord avec nous, celui qui nous gratifie de ses meilleures réactions à chaque réussite de Spencer Dinwiddie, c'est Tom évidemment. Comment ça va Tom?
Ça va très bien, très heureux que les Mavs et Spencer Dinwiddie soient en finale de conférence.
Effectivement, on va en reparler. Lui, il se régale plutôt des passions déchaînées en ce moment par les fans en tant que spectateur neutre. C'est évidemment Ben. Comment ça va, Ben?
Ça va aussi bien que Tom, quand j'ai pu admirer sa tête, quand il a fait semblant de dire qu'il était heureux de voir Spencer Dinwiddie en finale de conf. Alors, les gens à l'audio ont peut-être cru en la bonne foi de Tom, mais ceux sur YouTube n'ont pas cru une seconde.
Genre, ça se voit à sa tête. Ceux qui nous suivent sur Twitter sont au courant également. On va en reparler effectivement de cette performance, pas uniquement de Spencer Dinwiddie, mais des Mavs du coup qui sont dans ces finales de conf, dans ce dernier carré de la NBA. C'est le sujet du jour, on va parler des Mavs, on va parler des Warriors, du Heat et des Celtics. Évidemment, avant ça, je vous invite à nous rejoindre un peu partout sur les plateformes de podcast, évidemment, Podcast Addict, Apple Podcast, Spotify, sur Acast, où vous voulez, évidemment, on est là, sur Twitter également, les réseaux sociaux, sur YouTube, si vous voulez voir la tête déconfite de Tom à chaque prononciation du mot Dinwiddie. Et puis, on va marquer une petite pause et on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler de ces fameuses finales de conférence NBA. Alors messieurs, ça y est, on y est, dernier carré de la NBA pour cette saison, avec des surprises, je pense qu'on peut le dire, pour les 4 derniers noms restants en NBA. On a donc les Dallas Mavericks, les Golden State Warriors, le Miami Heat et les Boston Celtics. Je vous propose d'aller directement dans le sujet, commencer avec l'actu chaude, avec les Mavs qui viennent de se qualifier après un match 7 que je n'arriverai même pas à qualifier. Je n'ai pas de qualificatif. Ben, je te mets au défi. Comment qualifier ce match 7? Qu'est-ce qui s'est passé?
Inqualifiable. Non, c'est trop facile.
Ouais.
Je vais un peu raconter ma vie, mais je me réveille donc après le match 7 le lundi matin et je vois les messages horrifiés d'Adrien ici présent, Tom et Alan. Donc bon, je vois le résultat, je me dis qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, le résultat n'a pas de sens quand tu n'as pas vu le match en direct. Donc je m'attends à voir un match où les Mavs sont dominants et où les Suns sont un peu à côté. J'ai vu un match où les Mavs ont un Luka Doncic étincelant, un Spencer Dinwiddie qui a un mélange entre Jamal Murray et Michael Jordan, pour le plus grand plaisir de Tom, et des joueurs qui font le taf et une défense plutôt solide. Et de l'autre, je vois des Suns amorphes, absents, écrasés par le moment, qui, pour beaucoup de joueurs d'effectifs, ont peur de prendre les tirs. Enfin, ça a été un match 7 assez particulier et j'avoue que j'ai beaucoup de mal à l'analyser. Et heureusement que ce n'est pas le sujet entier du podcast parce que ça aurait été difficile de faire un podcast sur ce match-là. N'empêche, moi, ce que j'ai vu du côté des Mavs, c'est une équipe qui n'a pas eu peur du moment. Et contrairement aux Suns, c'est à noter. Peut-être parce qu'ils ont déjà vécu ce genre d'échéance. Un match 7, ils en avaient déjà vu un. Mais c'est une équipe qu'on ne voyait pas du tout à ce niveau-là. Je rappelle que avant le début de la saison, à Vegas, ils étaient 10e parmi les favoris pour le titre NBA, donc pas du tout parmi les équipes qu'on pouvait imaginer à ce stade de la compétition. Donc ils ont été solides sur le match 7. Ça reste une série extrêmement étrange parce qu'après le match 2, personne ne leur donne une chance. Ils gagnent alors qu'on va le dire, il n'y a pas une minute de cette série où qui joue vraiment au couteau. Donc ils passent dans une série plus que le match 7 que je trouve difficile à cerner.
Ouais, Tom, je t'ai vu acquiescer à ce que disait Ben, peut-être revenir sur cette série, effectivement, série assez étrange, tu nous l'avais fait remarquer, avec pas de match serré, que des blowouts pratiquement dans cette série. Comment, Comment tu analyses un peu ça à chaud, on va dire?
Ben, que des blowouts, et surtout c'est la physionomie en fait de ces blowouts où tu pars à 2-0, tu reviens à 2-2, et après déjà à 2-0, moi je trouve ça totalement, je pensais vraiment inconcevable le fait que Dallas puisse passer, puisqu'il leur aurait fallu gagner du coup 4 matchs sur 5 pour pouvoir se qualifier, et c'est ce qu'ils ont fait, tu vois. Et j'ai trouvé leur prestation incroyable. Défensivement, ils ont été très 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 solides. Ils ont pas diamétralement changé leur façon de défendre. Ils ont beaucoup ils ont continué à attaquer la façon dont ils attaquaient. Ils ont su mettre des tirs dedans. On l'a vu, il y a un vrai différentiel, par exemple, notamment sur les matchs à domicile et à l'extérieur pour la série, pour les joueurs des Mavs, notamment à 3 points. Et ils ont mis dedans. Et là où on pouvait penser qu'ils auraient abandonner une certaine partie de leur plan de jeu parce que sur les deux premiers matchs, ça s'est pas bien déroulé pour eux. Ben, ils ont continué à jouer à peu près de la même façon et ils ont simplement mis des tirs qui rentraient pas, quoi. Et après, sur le match 7, ben, je pense que non seulement ils ont su exploiter les faiblesses des Suns en punissant offensivement la majorité des mismatchs, mais défensivement ils leur ont fait très mal dès le match 3. En fait, ils ont trouvé des bons ajustements, notamment sur avec Reggie Bullock, la façon dont ils utilisent Finney-Smith pour contrecarrer le rythme de l'attaque des Suns, et ça a totalement enrayé la mécanique, quoi. Le match 5 limite des Suns c'est un petit sursaut, le match 5 c'est un petit sursaut, mais au final quand tu regardes le match 6 et le match 7, bah, ils sont beaucoup plus représentatifs des 5 derniers matchs qu'on a vus sur la série.
C'est assez paradoxal parce que, comme tu le disais, Ben, à 2-0, tout le monde voyait une nouvelle fois les Suns qui étaient aussi favoris à l'entrée de la série. Et on commençait à pointer du doigt peut-être justement ce que tu disais, Tom, le manque de solutions alternatives pour les Mavs, en disant que voilà, les Suns étaient tranquilles et ils avaient peut-être trouvé la solution. Et en fait, en insistant peut-être avec la réussite des joueurs à côté de Luka Doncic, on y reviendra, mais les Mavs ont trouvé une solution là, et effectivement défensivement ils nous ont prouvé sur le game 7 peut-être ce qu'on a vu, on l'a vu tout au long de la série un peu, mais effectivement une fois que Chris Paul n'arrivait plus à imposer son rythme sur la défense adverse, eh bien c'est les Suns qui sont retrouvés en mal d'alternative en fait de joueurs capables de scorer. On en a parlé entre nous, Ben, du côté des Suns, des mecs capables de se créer leur propre tir en dehors de Chris Paul, donc balle en main, et donc d'un Devin Booker qui a eu du mal sur ce Game 7, bien, il n'y en a pas beaucoup à Phoenix.
J'ai l'impression sur certains aspects qu'on fait un peu une redite de ce qu'on avait dit avec les finales NBA, sur bien des aspects. Cet aspect-là, effectivement, les Cam Johnson, les Mikal Bridges, etc. Jay Crowder, qui est un des seuls joueurs qui n'a pas peur de prendre des tirs dans ce match 7, ben, beaucoup de ces joueurs-là sont des joueurs de fin de chaîne, qui Tom aime bien parler de talent dépendant. Et une fois que le talent ne peut plus irriguer en leur sens, ça a été le cas de Chris Paul, c'est un peu moins le cas de Booker, parce que comme on l'avait dit dans les finales NBA, Booker peut évoluer dans un écosystème un peu différent des autres, c'est-à-dire qu'il peut mettre 40 sans que ça soit vraiment bénéfique pour son équipe. Ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est souvent le cas.
C'est un peu le cas du Game 5.
C'est un peu le cas de ça, oui. Et d'ailleurs, Tom, si je peux juste revenir sur ce qu'a dit Tom, c'est très vrai, je pense qu'on aurait dû plus s'inquiéter collectivement après le match 6 des Suns, parce qu'en fait, on s'est tous dit, bon, OK, ils veulent prendre le set, ils veulent aller jouer chez eux. Alors qu'en fait, il y avait beaucoup de signaux qu'on aurait dû déjà souligner. Mais pour en revenir à ce qu'on a vu du côté des Suns, bah, c'est une équipe où la dynamo marchait plus et le reste des joueurs ont été mis face à... Peut-être, ça c'est une théorie psychologique à deux balles, mais peut-être qu'ils n'étaient pas aussi... Ils n'avaient peut-être pas prévu que la série serait si difficile. C'est une équipe qui a eu quand même un parcours en playoff l'année dernière, mis à part la fin des finales NBA qui perdent, assez simple. Là, ils font une série un peu compliquée au début contre les Pels, mais ils passent. Ils mènent 2-0 contre une équipe. Tout le monde annonce fin. J'ai vu quelques personnes dire « Ah, vous avez enterré les Mavs ». Personne donne une chance aux Mavs à 2-0. Et les Suns perdent quand même. Donc, il y a peut-être de ça, mais oui, on voit les limites de cet effectif, comme on l'avait déjà vu. Le truc, c'est qu'on ne pensait pas les voir si tôt, dès le deuxième tour.
On aura tout le temps de faire le post-mortem, je pense que c'est un sujet qui reviendra sur la table cet été notamment, il va s'en passer des choses du côté des Suns. Revenons sur ces Mavs qui effectivement, bon, ça y est, sont qualifiés pour plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons d'être objectif, d'être optimiste plutôt du côté des Mavs pour ce qui vient de se passer, puisque tu as Luka en forme, puisque tu les as cités, Tom, les Reggie Bullock, les Dorian Finney-Smith, les Maxi Kleber qui sont en pleine réussite, le Jalen Brunson, Spencer Dinwiddie donc aussi. Et en plus, tu as un Luka qui est quand même qui nage, qui vole au-dessus un peu de ses playoffs pour l'instant. Là, sur ce match 7 aussi, ce qu'on a vu, alors au-delà de, une fois que le match était plié, je pense qu'à partir de la mi-temps, il n'y avait plus vraiment de match. Mais sur le début de match, on a vu Luka se jouer justement de cette défense aussi des Suns, avec un des runner-up du Defensive Player of the Year quand même, dans la personne de Michael Bridges. Voilà, est-ce que Luka n'est pas, c'est une question que Ben, tu avais envie de poser, on va se la poser. Je commence par toi, Tom. Est-ce que Luka est le meilleur joueur des playoffs qui reste actuellement?
Je pense que oui. Dans ce qu'on a tendance à attendre, je pense que oui. Après, faut pas non plus mettre ce que peut potentiellement faire Stephen Curry, voire même Jason Tatum de l'autre côté, qui a fait une série aussi assez exceptionnelle. Donc faut pas mettre ça de côté, mais je pense que par rapport à ce qu'il a montré, je pense que c'est le meilleur joueur qui reste. Après, je pense que c'est aussi celui qui avait le plus d'écart par rapport au deuxième meilleur joueur, si on prend notre DH20, c'est lui qui avait peut-être le plus d'écart avec le deuxième meilleur joueur
dans sa série,
dans le classement.
Dans sa série, comment tu veux dire?
Oui, dans sa série. Et du coup, ça s'est beaucoup vu. Et surtout, moi, ce qui m'a marqué en fait avec Luka Doncic, c'est la façon dont il a abusé des mismatchs directs, soit de façon directe, soit de façon indirecte. C'est-à-dire que il arrivait à obtenir le switch du coup sur le drop d'Ayton, et une fois qu'il avait le switch, soit il décidait d'attaquer de façon frontale, et même si tu pouvais avoir Bridges qui essayait de reprendre à la dernière minute un scrum switch, à la dernière minute essayer de reprendre Doncic, c'était trop tard. Ou sinon, ce qu'il faisait, c'est simplement attirer Ayton à l'extérieur pour s'en servir comme un leurre, et du coup passer la balle. Et le fait que Ayton n'était plus là, ben vu que les Suns avaient Devin Booker en low man qui assurait la protection de cercle secondaire, ben une fois que tu passais la balle et que Ayton n'était plus là, ben il y avait plus de protection de cercle du tout, et il se faisait abuser comme ça, quoi. Et ça, il a bien su manipuler la défense en trouvant à chaque fois la bonne solution, et c'est quelque chose qu'il va falloir voir avec les Warriors, puisque les Warriors sont des vieux briscards. Ils connaissent, et on a vu parfois Luka Doncic en saison régulière, on les a vu réussir parfois des interceptions sur les Mavs comme ça, où Luka Doncic pense qu'il a peut-être piégé l'aide, et finalement le joueur arrive à intercepter la passe dans le corner. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles le jeu d'échecs, la partie d'échecs sera peut-être plus difficile face aux Warriors.
Alors Ben, est-ce que pour toi aussi le meilleur joueur d'échecs restant, c'est Luka Doncic?
Je suis assez surpris, Tom n'a pas cité le nom du deuxième meilleur joueur de ses playoffs. Pour l'instant, c'est Jimmy Butler.
Je l'ai pensé.
qui a pas été, mais qui est grand oublié de cette discussion absolument dans parce partout. Que... Ouais, vas-y, attends.
Non, pas du tout.
Parce que son profil est totalement différent des autres qu'on cite là.
Je pense qu'il y a de ça. Ouais.
Je pense que son profil offensif notamment, parce qu'après il y a le côté two-way, mais son profil offensif de côté en force d'aller chercher les paniers au cercle, etc. C'est un peu différent. C'est pas à base de pull-up. Et je pense que ça marque moins les esprits, mais effectivement, quand même, comme le dit Tom, le nom commence un petit peu à circuler, parce qu'ils sont vocaux, les fans du 8, quand même, à dire « on parle jamais de nous ».
Oui, oui, c'est vrai. Mais je pense qu'il y a de ça, il y a aussi le fait que, on va en parler, hein, le parcours du 8, c'est pas celui qui a fait le plus de bruit pour l'instant, comparé aux trois équipes qui restent. Il n'y a pas eu de série, leurs deux séries ne sont pas marquantes du fait des adversaires, on en parlera. Je pense que oui, Luka Doncic, c'est le meilleur joueur restant. Je tiendrai aussi peut-être à nuancer l'écart, parce que on va dire que je encore une fois je presse pour ma paroisse, mais il y avait un écart assez substantiel, je trouve, quand même dans la série Bucks Celtics, entre le meilleur joueur de la série et le deuxième meilleur, le problème étant que le meilleur joueur de la série était pas assez épaulé, mais je pense que sur séquence
mais par rapport au DH20, il y a pas tant de place d'écart au final, hein. Si tu l'actualises aujourd'hui,
ouais, mais ça on l'a pas encore fait de l'actualiser, tu vois. Donc, en tout cas, par rapport à ça, je pense
qu'il y a... Grand débat pour cet été.
Oui, il y avait ça. Par rapport à Luka, il y a aussi cette sensation de domination. C'est un truc très rare, moi, je trouve. C'est le fait, comme l'a dit Tom, t'as l'impression qu'il est au-dessus des attaques, des défenses adverses. Il y a une espèce de sentiment de contrôle qui, alors on l'a déjà dit, on a beaucoup glosé sur Luka, donc je vais pas revenir là-dessus, mais qui est très rare à ce niveau de compétition. Ma seule question vis-à-vis de Luka, c'est jusqu'à quand? Parce qu'en fait, c'est un mec qui tient la balle 10 minutes par match, ce qui est, enfin,
colossal.
Colossal. Herculéen.
On a le même mot.
À ce stade de compétition, Luka faisait ça sur un tour de playoff avant de se prendre les pieds dans le tapis Clippers 2 années de suite. Là, il fait 2 tours de suite. C'est un mec qui a joué les JO, donc il a pas vraiment eu d'été. Là, ça commence à faire beaucoup. On sait que les 2 saisons se sont enchaînées. Donc, je me demande si Luka est un joueur exceptionnel, hein, mais jusqu'à quand il peut faire ça? Parce que c'est la charge offensive qu'il doit avoir. Elle est énorme et je souhaite que ça puisse tenir pour les fans des Mavs, mais c'est ma seule question qui reste. Mais oui, c'est le meilleur joueur du plateau, bien évidemment.
C'est une question qui va se poser, parce que c'est aussi, je vais revenir très rapidement, parce qu'on a dit qu'on s'étalait pas sur les Suns, mais c'est aussi quelque chose qui a pêché pour Chris Paul. C'est-à-dire que les Mavs, tu parlais de la recherche des mismatchs de Doncic, Tom, ils sont aussi beaucoup allés chercher Chris Paul pour l'obliger à défendre, notamment avec Doncic, qui allait tout simplement le post-up régulièrement. Et c'est vrai que c'est peut-être quelque chose qui peut arriver aussi à Luka, puisque sur le terrain, il est souvent le moins bon défenseur, on va dire, de son équipe. Donc ça rajoute une charge en plus des 10 minutes de possession, comme tu disais, Ben, qui est une charge, on va dire, intellectuelle déjà, à réfléchir tout le temps, puis en plus une charge physique, puisque, bon, bah, évidemment, il faut jouer au basket, quoi. Donc effectivement, c'est la question, mais je vous rejoins. Luka est probablement le meilleur joueur. Et justement, vas-y.
Juste un truc, sur l'aspect défensif, on parle jamais assez du fait que Luka, il est massif. Et que ça.
C'est énorme.
On en parle jamais.
C'est pour ça que j'ai dit moins bon défenseur et j'ai pas dit le pire, parce qu'il est pas si horrible. C'est pas très young pour te lancer une perche.
C'est surtout que par rapport aux jeunes arrières, regardez dans les matchs, je sais pas, entre Memphis et sans faire un jour à Jamal, entre Memphis et Dallas, il est énorme, Luka. Il est très très physique. Donc même s'il fait moins les efforts, c'est une masse à passer pour un attaquant. Et ça, on n'en parle jamais assez, je trouve.
Je pense que c'est quelque chose qu'on pourra souligner.
Le théorème Gallinari.
Théorème Gallinari. Mais on va en parler justement des physiques qu'il va affronter au tour d'après, enfin dans les finales de conférence. Donc, on les a évoqués rapidement. Ce sont donc les Warriors. Les Warriors qui étaient, Ben, tu avais cherché la stat, qui sont les favoris. Ils sont les favoris restants, les favoris à Vegas.
C'est ça. C'était là. Il y a ces stats totalement folles. Parmi les 8 favoris à l'ouverture des paris à Vegas, il reste une seule équipe. C'est les Warriors. Ils sont favoris, mais on en parlera peut-être en fin d'émission. Il y a une équipe qui pousse. C'est les Celtics, en fait.
Donc, les Warriors favoris sur le papier. Comme tu l'as dit, Tom, une équipe de vieux briscards pour la plupart. On retrouve le fameux trio Curry, Clay, Draymond, agrémenté d'un Wiggins qui fait une très très belle série juste avant. On a Jordan Poole évidemment qui s'est révélé cette saison. Je vous lance une question très très large, Tom. Les Warriors, est-ce qu'ils ont les moyens d'aller en chercher une nouvelle bague, hein? C'est ça la question finalement.
Je pense qu'ils ont les moyens, mais ils ont été Comme toutes les autres équipes, hein, à part Boston, comme on disait un peu en off, ils se sont fait blowout.
C'est difficile en fait.
C'est-à-dire que tu les as vus en grande difficulté à un moment donné durant ces playoffs. Et du coup, tu t'as dit que cette version 2 peut encore revenir et peut être exploitée. Vu que la difficulté et la puissance, entre guillemets, des adversaires que tu vas rencontrer va s'améliorer, ben tes faiblesses seront beaucoup moins faciles à masquer. Et là, c'est quelque chose qu'ils seront vraiment mis à l'épreuve. Je pense qu'ils ont les moyens d'aller jusqu'au bout, mais j'ai pas la sensation qu'ils pourront cette saison parce que, enfin, personnellement, moi, j'ai pas confiance à cette équipe-là et je suis peut-être biaisé par le niveau qu'ils avaient avant que je ne retrouve pas là, mais peut-être que le niveau qu'ils ont là peut être suffisant par rapport au film. Ouais,
c'est vrai qu'effectivement, si on les compare à eux-mêmes d'il y a quelques années, forcément, c'est compliqué. Mais entrons directement dans le vif du sujet qui a été posé par Tom, Ben, sur les adversaires, la difficulté croissante au fur et à mesure d'un run de playoff, en général, pour aller au bout, et à ce match-up face à Dallas, donc qui s'est qualifié, et je pense que la réponse est oui, mais est-ce que c'est pas un peu un soulagement du côté de Golden State de plutôt tirer Dallas que Phoenix, sur le papier en tout cas?
Sur le papier, je pense que c'est un soulagement. Ils auraient signé avant le début des demi-finales pour tomber sur une finale comme celle-ci. Après, vu ce qu'on a vu des Suns, je sais pas si, par exemple, si on leur demande au début du match du match 1 de la série, ils votent Dallas. Si on leur demande avant le début du match 7, je suis pas sûr que la réponse soit aussi rapide. Par rapport au match-up, ça va être très intéressant de voir, je pense, la manière dont ils vont défendre Luka, parce que on l'a vu, de toute façon, on a eu deux séries de playoffs maintenant. Les Warriors ont une tendance à, c'est quelque chose qu'ils font sous tout l'air Steve Kerr. En gros, bon, bah, on accepte que le joueur majeur nous fasse souffrir. Notre clé défensive, c'est que les 2, 3 et 4e options soient complètement annihilées. C'est ce qu'ils ont fait avec les Cavs, etc. Bon, les options n'étaient pas extraordinaires à certaines périodes. Mais l'idée, c'est donc de voir à quel point, et là, c'est très intéressant parce que Tom parlait d'écart entre le meilleur joueur et le deuxième meilleur joueur dans une série. Là, on peut dire que c'est quand même l'équipe dans laquelle il y a un écart assez extraordinaire entre le meilleur joueur, donc Luka, le joueur héliocentré, et un peu le reste, mis à part peut-être Brunson sur séquence et Michael Spencer Dinwiddie. Donc, il y a cet écart-là. Donc, ça va être très intéressant de voir comment les Warriors vont faire. Je pense qu'ils vont pas sortir de cette philosophie-là. Mais ma grande question, c'est, tu peux faire ça contre Ja Morant, peut-être. Je me demande à quel point tu peux faire ça contre Luka Doncic avec sa qualité de passe. Si il continue à tout mettre comme ils l'ont fait dans la série, un peu contre le Jazz, beaucoup contre les Suns sur la fin, ces Mavs-là, je pense que ça va poser de vrais problèmes aux Warriors. Une seule petite question au niveau du coaching. On a beaucoup critiqué Jason Kidd. Il est en train de se redorer à blason, mais je trouve que, premier tour, il affronte un Jazz qui est indescriptible, vraiment dans le mauvais sens du terme. Derrière, ils affrontent des Suns qui ont du mal à se relever de leur premier coup de poing en pleine face. Kerr ont l'expérience, Tom parlait de ça, ce sont des vieux briscards. Donc je me demande si à ce niveau-là, au niveau des X's and O's, comme aiment bien dire les Américains, est-ce que Kidd aura le vrai niveau face à Steve Kerr?
Je t'ai vu pensif, Tom, sur les réflexions de Ben. Est-ce que tu penses que cette stratégie défensive, notamment de Golden State, peut marcher par rapport à ce qu'on a pu voir aussi face à Memphis? J'imagine que tu as bien pu voir ça sur la série précédente.
Ben, je pense que il y aura avant tout, je pense qu'ils vont essayer de défendre Luka sans entre guillemets doubler tout de suite. Je pense qu'ils vont essayer de voir s'ils arrivent à lui permettre de se fatiguer, puisque la clé, tu sais que lui, quoi qu'il arrive, il va te martyriser. L'important, c'est de pouvoir d'être en mesure de ne pas tout concéder, de ne pas tout donner. C'est-à-dire que si Doncic a son niveau classique, il faut pas que tu aies Brunson et Dinwiddie et Maxi Kleber et
Finney Smith,
comment il s'appelle, Reggie Bullock, qui te punissent. Il faut que tu puisses enlever quelque chose. C'est soit Luka se débrouille et du coup tu le défends avec une couverture classique, mais à quel point, s'il commence à te faire ce qu'il a fait à Phoenix, parce que c'est ça aussi qui les a perturbés, c'est-à-dire que quand tu arrives avec ton plan de jeu principal et que tu te fais totalement allumer, bah, ton instinct va te dire de changer pour ne pas continuer à te faire allumer de la sorte. Donc du coup, à voir s'ils pourront respecter ça. Moi, ce qui va être intéressant pour moi avec ces Warriors-là, c'est les minutes de Draymond Green. Draymond Green, aujourd'hui, aux Warriors, il est à 30 minutes en moyenne en playoff. C'est trop peu. S'ils veulent aller en finale NBA, il faut qu'ils jouent plus que ça. Il faut qu'ils jouent plus que ça. Et il va falloir, du coup, qu'ils trouvent des solutions pour pouvoir avoir Draymond Green au poste 5 et trouver des ailiers à intercaler qui ne soient pas trop pénalisants, en fait, dans le système offensif. Puisque on l'a vu dans les affrontements qu'il y a eu notamment en saison régulière entre ces deux équipes-là, ben à partir du moment où tu dois avoir Draymond Green sur le terrain et tu dois rajouter soit Kevin Looney, soit Gary Payton 2, puisque
il pourrait revenir
dans ces séries-là, ben tu mets énormément de pression sur Klay Thompson et sur Stephen Curry, du coup, pour pouvoir avoir un certain spacing et pour matcher de l'autre côté du terrain. Et Klay Thompson, bon, il a pas été hyper rassurant défensivement sur cette série-là, donc je pense pas que on le mettra en mission sur Doncic. Mais du coup, je pense que il y a moyen, en fait, pour les Warriors d'être meilleurs que ce qu'ils ont été juste avant, simplement en réallouant en fait le pool de minutes qu'ils ont aux combinaisons qui fonctionnent les mieux.
Oui, puis vous êtes beaucoup concentré, je suis relativement d'accord avec vous, hein, sur l'aspect défensif face aux Mavs, mais tu l'as dit, Tom, les Mavs, ils vont répéter leur gamme. Tu vas peut-être les freiner, mais ça devrait le faire. Il y a aussi de l'autre côté du terrain. Et ce qu'on avait pointé du doigt sur Phoenix en parlant là de cet effectif de joueurs de fin de chaîne très talent dépendant, donc tu vas dépendre de Chris Paul, c'est beaucoup moins le cas à Golden State. Alors tu l'as dit, il y a des mecs pénalisants offensivement, tu les as cités, Tom. Mais en fait, les gars qui restent, Curry, Clay, Jordan Poole, Andrew Wiggins, sont des gars capables de se créer leur propre tir. Et du coup, ça va changer aussi un peu la manière dont Dallas doit défendre par rapport à ce qu'ils ont dû faire face à Phoenix. Et c'est vrai que du côté de Dallas, même si tu l'as souligné, Ben, il faut saluer le travail de Kidd et de son coaching staff sur la défense de Dallas, qui est quand même très très bonne depuis la fin de saison, hein, d'ailleurs, hein, pas que sur les playoffs. Sur le papier, les joueurs individuellement ne sont pas globalement réputés pour être des grands défenseurs. Et tu vas avoir souvent des minutes avec, je sais pas, Brunson, Dinwiddie, Luka Doncic. Bon, normalement, des défenseurs d'un contre un qui ne sont pas élites. Donc, a priori, en termes de système, pour la défense de Dallas, ça va être peut-être un peu plus sportif. En tout cas, il va falloir s'adapter différemment de ce qui a été fait face à Phoenix.
Surtout qu'ils pourraient jouer la première équipe. Il y a un truc bizarre, c'est quand même, il y a beaucoup d'équipes qui jouent small ball sur ces playoffs, je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça, et que les Mavs n'en ont pas joué une seule pour l'instant. Enfin, genre, les Suns jouent pas comme ça, le Jazz joue pas comme ça. Donc, ils ont pas joué d'équipe small ball encore. Donc, j'ai hâte de voir leur défense face à une équipe qui, quand même, maîtrise ça depuis plusieurs années. Et notamment, je reviens du coup sur ce qu'a dit Tom avec Draymond Green qui devra jouer plus. Enfin, ces minutes où ils vont jouer en small ball avec leur super line-up qui avait été un petit peu sorti, mais qui avait déçu.
Enfin, bref. PTSD.
Exactement. Bah, à voir. Mais moi, j'ai hâte de voir comment ils vont défendre ça. Et surtout, tu l'as dit, Adrien, la capacité à naviguer entre les options, c'est-à-dire que sur une possession, ils peuvent attaquer tel joueur, sur une autre, tel joueur. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là où sur des playoffs, parfois, on est sur une répétition, ce qui peut énerver certains téléspectateurs de se dire, quand Duncan Robinson est sur le terrain, si je prends son exemple, tout le monde va attaquer Duncan Robinson. Les Warriors auront la possibilité d'attaquer plusieurs joueurs du 5 à la fois. Donc ça, c'est un truc qu'il faudra voir. Moi, j'avoue que je veux savoir comment ils défendent avec Maxi Kleber le small ball. J'avoue que ça me fascine. Parce que comment ils vont défendre, genre si les Warriors décident de jouer énormément en pénétration, comment ils font pour défendre ça alors qu'ils n'ont pas du tout le personnel et que là, ils seront face à des problématiques qu'ils n'ont pas eues sur les deux premiers tours contre le cadavre de Utah et des Suns un peu en perdition.
Et Tom, je t'ai vu acquiescer cette réflexion. Qu'est-ce que tu en penses?
Bah oui, parce que les Warriors, enfin, sur le tour précédent et même face à Denver, c'est une équipe qui a beaucoup, beaucoup drivé plutôt que s'appuyer uniquement sur les tirs à trois points. Ils ont pris des trois points, mais ils ont beaucoup généré des trois points grâce au drive. Et je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir que les Mavs vont devoir contenir, puisque c'est quelque chose qu'ils ont réussi à faire, notamment avec Chris Paul et Devin Booker, en les empêchant de prendre de la vitesse et en fermant vraiment la tête de raquette pour qu'ils aient aucun rythme quand ils arrivent dans cette zone-là. Et du coup, je pense que ça va être un enjeu, et notamment dans les line-up que vont devoir utiliser les Warriors pour pouvoir se défaire pour pouvoir profiter des faiblesses des Mavs, tout simplement. Alors, première chose, ce qu'ils faisaient sur Devin Booker, ça va être beaucoup plus compliqué à faire, notamment sur Steph Curry, ou voire même sur Clay quand il aura la balle, ou voire même Jordan Poole, hein, puisque le fait de trapper le joueur très haut, au final, si tu te retrouves avec Draymond Green sur le short troll,
la prise de décision est plus rapide que celle de DeAndre Ayton.
Voilà. C'est pas la même histoire, et on sait que Steph Curry, ça lui dérange pas de lâcher la balle et de la récupérer un petit peu après. Donc là, la façon dont il va falloir défendre sera différente. Et puis notamment sur le côté agressivité balle en main, Phoenix, l'une de leurs faiblesses, c'est qu'ils ne mettent absolument pas de pression sur le cercle. C'est une équipe qui provoque très peu de lancers francs, c'est une équipe qui provoque très peu de fautes en général, puisque ce sont plus des joueurs qui sont dans l'évitement, on va dire. Plus des joueurs qui sont dans l'évitement et qui vont finir plutôt à mi-distance. Là où, par exemple, t'as des joueurs comme Jordan Poole, comme Wiggins, Draymond après le short roll, et peut-être
Kuminga,
même
oui,
Kuminga,
il va jouer.
On sait pas, hein. Ils peuvent du coup arriver à mettre la pression sur le cercle en partant de la ligne à trois points pour accéder au cercle sans assist, quoi. Pas sur des cuts ou des choses comme ça, en partant. Et ça, je pense que c'est quelque chose avec lequel les Mavs auront pas mal de mal, puisque les Mavs, c'est pas une équipe qui contre, C'est pas une équipe qui fait des interceptions non plus. Donc, ce sont pas des gros playmakers défensifs. Donc, à voir comment ils arrivent à se prémunir, en fait, de cette faiblesse.
Surtout que ça, c'est un truc que je répète depuis la première année du podcast. Je reste persuadé que contre les Warriors, dans n'importe quelle version des Warriors, il faut être une défense de playmaker parce que tu pourras pas stopper leur attaque à un moment. Il faut créer des occasions.
Bah, c'est ce qui a marché pour Memphis hein, face aux Warriors, c'est-à-dire que Memphis générait des transitions à cause des pertes de balles, puisque les Warriors sont très, perdent beaucoup de ballons en général, et à partir du moment où tu arrives à leur permettre de provoquer, enfin tu arrives à leur faire perdre la balle, tu peux courir et générer de la transition, vu que ils font des turnovers un peu, enfin des pertes de balles un peu bêtes. Pardon. Là où par exemple même les Mavs en fait, même quand ils récupèrent la balle sur des interceptions, c'est pas une équipe qui court tant que ça en fait. C'est pas une équipe qui court tant que ça, donc il y aura peut-être pas tant de paniers faciles que ça.
Oui, c'est sûr, si tu veux courir au rythme de ton soleil, bon c'est vrai que Luka Doncic n'est pas le joueur avec le rythme le plus élevé. Je pense qu'on a bien résumé les problématiques. On se garde les pronostics pour la fin du podcast. Comme on est à une demi-heure, on est pile à la moitié, ça tombe bien. On va pouvoir aller de l'autre côté quand même pour parler un petit peu de ce qui s'est passé dans la conférence Est. Et ce qui s'est passé était très conférence Est d'ailleurs. En tout cas, sur ce qui se prépare, on a eu des joutes physiques notamment. Bon, je vous propose de commencer. On les a évoqués rapidement avec Ben par le Heat, par Jimmy Butler. Et ces deux séries, donc coup sur coup, Atlanta, puis des Sixers diminués. Donc, 4-2 pour Miami face à Philadelphie. Et finalement, Ben, c'est ce que tu avais écrit quand on a préparé ce podcast. Du coup, est-ce que Miami, c'est pas l'équipe où on a le plus de points d'interrogation, puisque finalement, bon, il y avait une vraie différence face à leur adversaire et on n'a pas pu les voir dans leur dernier retranchement. Est-ce qu'il nous manque pas des cartes pour évaluer ce hit arrivé en finale de conf?
Ouais, c'est clairement l'équipe sur laquelle on a le moins de données. Déjà parce que leur premier tour, ils atomisent les Hawks. Dans une série où...
Série 1-8 classique.
Série 1-8 où, en plus, j'aime beaucoup parler de ce premier coup de poing asséné par une équipe sur l'autre et la réaction. Il n'y a pas eu de réaction du côté des Hawks et de Nate McMillan. Donc, c'est une série où tu peux tirer que très peu de choses. Et la série contre les Sixers, elle est très difficile à analyser parce que tu as l'impression que les Sixers boxent, si je garde la métaphore boxe, ils boxent 3-4 catégories en dessous de ce qu'ils, hypothétiquement, ils devaient faire. Avec un Embiid diminué, avec un Harden par séquence, Maxi qui est encore un peu trop jeune, etc. Ce qu'on a appris sur cette équipe du Heat, Jimmy Butler reste un joueur qui sait sublimer et qui sait parfois faire sur des campagnes de playoffs ce qu'il ne fait pas en saison régulière, ce qui reste incroyable. Personnellement, là c'est le petit cœur qui parle, Bam Adebayo continue à me frustrer sur séquence parce qu'il doit atomiser les Hawks sur certaines séquences. Il le fait pas, son équipe gagne. Donc, on le jugera plus sur cette série, je pense. Et leur capacité à avoir des joueurs du banc ou même du 5 qui viennent et qui font des perfs XXL en playoff, c'est fou. Enfin, je veux dire, ils ressortent la dépouille de Victor Oladipo d'on ne sait pas où qui apporte de bonnes minutes. On a les Max Strus qu'on a découvert cette saison régulière, on a Tyler
Gabe Vincent,
Tyler Hero, enfin je veux dire c'est incroyable. Après oui, est-ce que je suis plus avancé qu'il y a 6 semaines ou non, peut-être pas 6, 5 semaines avec ce hit? Bah pas vraiment, j'ai envie de te dire Adrien. Enfin j'ai l'impression que leurs playoffs ont déjà commencé hein, mais on va apprendre vraiment des choses dans les 4 ou 5 jours qui arrivent quoi.
Tom, est-ce que tu vois un peu plus clair, toi, sur ce hit? Est-ce que tu as des choses à rajouter?
Moi, je trouve que c'est une équipe vraiment très solide. Hein. Enfin, depuis le... enfin, on s'en souvient qu'on avait fait notre power ranking. Je pense que
on les avait en finale de conf face aux Sixers. Et c'est les Sixers qui sont passés quand on a fait notre simulation de playoff. Je m'en souviens parce que Ben était très déçu. Et Madiane et moi, on était dans la théorie Sixers qui, du coup, n'a pas eu lieu. Donc, voilà. Donc, ils étaient en finale de conf, le hit.
Et la série réelle a eu lieu. Hein.
On a avec des Sixers diminués. Vas-y, continue.
Non, mais après, le truc avec cette équipe de Miami, c'est qu'il y a très peu de points faibles. Et les points faibles, ils tiennent pour l'instant aux ischios de Kyle Lowry, en fait, un peu. Hein. Malheureusement, c'est-à-dire que. Alors, ils ont quand même trouvé des solutions avec, comme tu l'as dit, Gabe Vincent, Max Strus. Qui sortent de grosses prestations et qui sont solides quoi, qui font le boulot, et un Jimmy Butler qui atomise les gens qui sont en face de lui, quoi. Après, les seuls endroits où on les a vraiment mis où ils ont été en difficulté, c'est notamment par exemple sur le match 3 face aux Sixers, c'est comment ils ont géré Danny Green. Alors, je sais, c'est-à-dire que la façon dont Danny Green arrivait facilement à laisser son homme entre guillemets dans la défense, à se libérer de son homme pour pouvoir trouver des tirs faciles sur des cuts tout simples, quoi, en passant d'une ligne de fond à une autre. Et ça, je pense que c'est un petit ajustement qu'il faudra faire de ce côté-là. Et heureusement pour eux, ils n'ont pas vraiment grand monde à Boston pour faire ce type de jeu-là. Après, globalement, le Heat, c'est une équipe qui, je pense, est celle qui a été la moins testée sur les playoffs. Vraiment, celle qui a été la moins testée sur les playoffs. Quand tu regardes vraiment, t'as Boston qui est à 8-3, Miami qui est à 8-3 et les Warriors aussi sont à 8-3, mais on n'a pas l'impression que c'est le même 8-3, quoi. C'est-à-dire que ils ont été beaucoup plus souverains Miami, et du coup, je pense que avec Boston, ce sont des équipes vraiment plutôt similaires, je trouve, hein, qui ont très très peu de faiblesses, qui sont basées sur de grosses défenses, de l'interchangeabilité, de la possibilité de switcher, tout ça. Donc je pense que ça pour moi, hein, ça ressemble un peu à ce qu'on pour moi, cette série là elle s'annonce un peu comme ce qu'on avait eu quand on avait le Houston 2018 contre les Warriors 2018, avec beaucoup de switch, des équipes qui jouent un peu pareil et qui se préparent à ce jeu depuis très longtemps. Donc la série sera pas très très jolie, je pense, mais ce sera vraiment une vraie partie d'échecs.
Une série de l'Est, quoi, comme je le disais, avec des défenses.
Pourquoi dès qu'on dit ça veut dire moche, en fait? Moi, j'ai un gros problème avec ça.
Pas forcément moche, mais c'est vrai que on y reviendra, je pense, sur les Celtics. Mais effectivement, les limites qu'on peut percevoir de ce hit qu'on n'a peut-être pas vu en face. Mais tu l'évoquais, Tom, pour l'instant, ça marche, et c'est aussi ce que t'as dit, Ben, c'est-à-dire que tu sors avec des gros matchs de Max Strus, de Gabe Vincent, de Tyler Herro qui met ses tirs en ce moment. Peut-être, moi, c'est là où j'ai peut-être une petite peur pour le Heat. Alors, c'est léger, hein, parce que je ne suis pas supporter du Heat, donc tout va bien. Mais est-ce que tu peux vraiment survivre quand sans Kyle Lowry, justement, pour l'instant, malgré les discours de Kyle Lowry, en dépendant de Tyler Herro, grosso modo, et de ses role-players un peu nouveaux dans ces joutes-là, pour ta réussite extérieure, notamment, même si Jimmy Butler est très fort comme ça.
Ouais, c'est vrai que d'abord, Tom l'a dit, tu l'as dit, Adrien, la santé de Kyle Lowry, c'est un peu la clé de la série, parce que je les vois, je vais pas spoiler la suite, mais si Kyle Lowry revient pas en bonne santé très rapidement, ça va être extrêmement compliqué pour eux. Une petite chose peut-être à noter sur leur parcours, ils ont quand même éliminé, selon moi, le pire match-up pour eux, c'est Embiid. C'est le pire truc pour eux, c'est le mec que Bam peut pas prendre à l'Est, et le mec sur lequel leur défense collective a pas vraiment de réponse. Donc, alors il était à 12%, mais ils l'ont éliminé. C'est peut-être un point positif pour eux. Par rapport au scoring, c'est vrai que ça fait peur, surtout qu'il y a aussi ce côté un peu pièce en l'heure, dans le sens où tu sais jamais trop. Alors peut-être que Spoelstra est un magicien, donc peut-être qu'il le sait, mais il y a aussi ce côté où on sait jamais trop qui va sortir du chapeau à un moment donné. Et alors ça a peut-être... Pour l'adversaire, c'est de l'instabilité, donc c'est une bonne chose, mais c'est aussi difficile de parier là-dessus. Par rapport à l'attaque, moi, je suis aussi très inquiet sur séquence. J'ai trouvé le hit, et ça, c'est... De toute façon, on en discutait entre nous pendant les demi-finales de conf à l'Est. Toutes les équipes avaient des trous offensifs abyssal, et en l'occurrence le Heat fait pas exception, où il y a des moments où, quand tu l'as dit, Adrien, ces shooters externes ne marquent plus, bah c'est autrement, c'est du pull-up difficile de Jimmy Butler, c'est des solutions qu'on n'arrive pas à trouver avec ces shooters-là, c'est du Bam Adebayo qui doit un peu sortir du chapeau. Donc effectivement, ils peuvent avoir des moments, ils sont très forts, mais sur la constance d'une série, je peux avoir peur contre, vous l'avez dit, bah, la meilleure défense de la NBA de ces playoffs, quoi.
J'ai vu acquiescer. Tom, toi aussi, tu le vois comme
après
ça?
Le hit. Ouais, c'est ça. Après le hit, moi, j'ai la sensation que c'est pas forcément une équipe qui va te mettre KO, c'est une équipe qui va gagner au point. C'est-à-dire que, au bout d'un moment, si on reprend l'analogie de la boxe, c'est-à-dire que, c'est un peu ce qui s'était passé dans la finale de, la dernière finale de conférence qu'ils avaient disputée face à Boston. C'est-à-dire qu'ils faisaient jeu égal sur trois quarts d'heure et gagnaient un quart d'heure.
À chaque fois, ouais.
On salue Alan.
Tu vois, c'était à peu près ça. Donc ils ont l'avantage de, ils ont, je pense qu'ils ont quand même pas mal d'expérience. Puis Jay Tucker sur Jason Tatum, ça va être intéressant de voir ça, après ce qu'il a fait notamment l'an dernier face à Kevin Durant, ça va être intéressant de voir ça. Et comme tu le disais Ben, l'attaque de demi-terrain, c'est quelque chose qui pose
question, on va dire,
problème, enfin qui pose question. Et à quel point ils pourront se passer des shooters à trois points? À quel point ils pourront se passer des shooters à trois points? On a vu ce qui s'est passé et le déséquilibre qu'il y avait sur la ligne à trois points dans la série précédente que Boston a disputée contre Milwaukee, qui a peut-être aussi coûté à Milwaukee sa qualification en finale. Donc, ils ont eu des problèmes à trois points face aux Sixers, notamment dans les débâcles. Va falloir que qu'ils arrivent à trouver des solutions, soit pour mettre les shooters sur le terrain, soit pour que les shooters et consistants mettent
dedans. Parce que Duncan Robinson est pratiquement sorti de la rotation, s'il était trop facilement, comme tu l'as dit Ben, en le prenant en exemple, malheureusement le pauvre, mais trop facilement attaquable. Donc pour sa défense friable, et du coup, bah forcément, tu perds en qualité de shoot extérieur. Je vous propose qu'on parle un peu des Celtics, comme ça on reviendra ensuite sur le match-up en particulier, on pourra en parler plus en détail. Qu'on parle donc des Celtics qui sont de l'autre côté, les adversaires du Heat, les Celtics qui se sont défaits des Bucks, des champions en titre, en 7 matchs. Un sacré spectacle, hein, d'ailleurs, mine de rien, un gros match, un Giannis énormissime. Bon, évidemment, les Bucks à qui il manquait leur lieutenant principal, donc forcément ça a été compliqué, mais voilà, le Boston l'a fait. Est-ce que c'est pas ça y est? Est-ce que les Celtics sont pas passés le cap? Est-ce qu'ils ont pas fait le plus dur? Ils ont sorti Giannis, la bête noire qu'il y avait à sortir à l'Est. Est-ce qu'ils vont être débloqués, ces Celtics, Ben?
J'ai eu un débat vif après le match 5 qui a pollué toute la conversation de Dunkin' Do avec Alan Guillou, que je salue. C'est l'année où ils doivent gagner. C'est-à-dire que c'est l'année où ils doivent gagner. Je commence à lui susurrer tout ça depuis bien 15 jours, je pense, mais très fort depuis une semaine. Ils doivent gagner cette année parce que il y a beaucoup de symboles. Alors, ils sortent des Nets amorphes, mais c'est quand même les Nets, le symbole est là, tu sors KD, etc., dans une série où tu l'asphyxies. Ensuite, tu sors l'équipe championne en titre d'un Giannis qui est dominant, alors certes, qui n'a pas Chris Middleton, mais tu fais cette erreur de perdre ce match 5 que tu dois jamais perdre en réalité, parce que c'est paranormal ce qui se passe à la fin du match. Il gagne le 6 à Milwaukee, il règne sur le match 7 contre une équipe un peu fatiguée. Enfin, je trouve que tout s'aligne pour eux. Il y a Tatum qui sort du chapeau au moment où, personnellement, je commençais à me dire qu'il fallait qu'il sorte du chapeau. Il fait un match, il fait justement, bah, il répond au début de critique, si on peut appeler ça comme ça. Donc, c'est une équipe qui arrive en forme, qui en plus, alors c'est souvent ce qui est utilisé pour critiquer le parcours, mais ça arrive à tous les champions, bénéficie toujours de la petite chance des blessures en face. Alors, ils ont des blessés, mais la perte, ou en tout cas l'absence peut-être de Kyle Lowry sur le début d'une série, leur profite grandement. Donc ces Celtics-là, ils ont montré défensivement qu'ils étaient très forts, ils ont montré qu'ils avaient des roleplayers qui pouvaient sortir du chapeau, ils ont prouvé que il n'y avait pas de point faible en défense et le Heat en aura peut-être. Je vois pas trop ce qu'on peut dire. Enfin, moi, je comprends pas Vegas. Hein. C'est eux, ils sont favoris pour moi sur la fin et c'est une équipe, on en parlera plus tard, mais pour moi, malgré le désavantage, sans l'avantage du terrain, ils partent favoris de cette série.
Tom, ce sont les favoris pour toi aussi alors?
Pour moi, c'est plus Miami qui reste favori. Déjà par rapport à l'avantage du terrain. Et encore une fois, j'ai l'impression qu'ils auront plus d'énergie. Parce que ce que viennent de faire les Celtics.
Ah, c'est devait être un temps, oui. En effet.
Ce que viennent de faire les Celtics pour aller après taper Miami, je pense que, Plus que le match-up en lui-même, c'est vraiment l'accumulation, en fait, qui pourrait leur faire défaut.
Ouais, il y a une stat. Il y a une stat comme quoi 74 des 90 équipes qui ont gagné le match 1 à domicile d'une finale de conf gagnent la série. 74 sur 90. En gros, quand tu gagnes le match 1 à domicile d'une finale de conf, t'as gagné. Et c'est vrai que moi, j'ai un peu peur, j'avoue, hein, que ils se prennent un peu les pieds dans le tapis. De l'autre, le Heat a joué aucune équipe qui a 10% de l'énergie des Celtics pour l'instant.
De l'énergie jusque-là.
C'est
la question que vient de souligner Tom. C'est vrai que mentalement, tu vois, la question était posée là. C'est vrai que mentalement, les Celtics, je pense que cette victoire face aux Bucks, même diminuée, on l'a dit, c'est le lot de chaque année. Les séries où il y a des équipes diminuées, ça arrive tout le temps. Je pense que pour les Celtics, ça va faire du bien pour Tatum, pour Brown, parce qu'ils ont beaucoup de. Ils commencent à accumuler les séries aussi au compteur quand même. Certes, ils sont jeunes, ces Celtics, on en parle souvent entre nous. Ils sont jeunes, mais ils commencent à avoir fait beaucoup de matchs, beaucoup d'expérience en playoff. Et l'accumulation de sorties quand il y avait des fenêtres, parce que c'était ça avant cette saison, avant ces playoffs, avant cette fin de saison même, on commençait à se dire, ah mince, il y avait peut-être une fenêtre, notamment dans la bulle, et ils l'ont raté, et ils vont peut-être le regretter pendant longtemps. Mentalement, ça peut peser, ce genre de choses. Là, cette série, elle fait du bien, de ce point de vue-là, dans la tête. Et après, comme tu l'as dit, Tom, par contre, physiquement, même s'il y a eu 4-0 hein, eux, dans leur premier tour, donc au final, ils n'ont pas joué plus de matchs, ils ont joué le même nombre de matchs, on y revient à ce qu'on disait sur cette différence de perception sur les derniers matchs. C'est vrai que la dépense physique qu'ont dû faire les Celtics, notamment justement en défense, avec pour chaque joueur, risque de peser à la longue. La question, ça va être ce premier match. Pour moi, vraiment, l'entame de série en fait peut décider beaucoup de choses. C'est-à-dire que si Miami met un énorme coup de marteau à Boston, si on a des blowouts comme on en a beaucoup dans ces playoffs au début, je pense que ça peut vite se compliquer. Enfin, ça peut se finir assez vite. Donc, j'ai du mal à les voir favoris, même si sur le papier,
ah, c'est dingue, disais, Ben. Donc, je suis le seul qui voit Boston favori.
Non, mais en fait, sur le papier, comment dire, en parlant pur basket, sans extra, sans conditions physiques, pure technique,
sans contexte,
je pense que je mettrais Boston. Mais en contexte, je me dis qu'il y a tout d'un piège où Miami est quand même dans un fauteuil et attend, un fauteuil de dos, je vous attendais, Monsieur Bond, tu vois, le grand méchant de film. Je pense qu'on est là, quoi.
Moi, j'ai peut-être été.
Puis il y a l'avantage du coaching.
L'avantage du coaching. C'est vrai que le coaching, j'avoue que quand je commence à m'imaginer les Celtics champions, j'ai plusieurs problèmes qui se posent à moi. Et un des problèmes, c'est le coaching, en fait. Genre, première série, Steve Nash est critiqué. Certes, Budenholzer n'est pas un peintre. Ensuite, tu joues Spoelstra, qui est peut-être le meilleur actuellement. Et tu pourrait tomber dans une finale contre Kerr, possiblement. Enfin, ça fait beaucoup de séries où tu devrais. Udoka devrait battre un coach meilleur que lui, sans compter le fait qu'il devrait presque à chaque fois battre une équipe où il y a un joueur meilleur que Tatum. Donc ça, c'est plusieurs choses qui me posent problème. Mais j'ai peut-être été trop traumatisé, les gars, par l'attaque demi-terrain du Heat, qui est complètement animée.
Oui. Je vois de quoi
ils ne mettent rien du tout. Et je me dis, ils ont fait ça contre des moins bonnes défenses. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont joué la défense des Hawks et des Sixers. Donc, contre celle de Boston, ça me fait très, très peur. Là où Boston, je trouve, avec peut-être un Tatum, mais surtout un Brand, parce qu'on ne parle pas assez de Jalen Brand, mais autant Tatum, Tucker. Ouais.
Incroyable.
Mais
incroyable.
Alors, qui défend Jalen Brand, les gars, sur...
Je pense que c'est Jimmy Butler qui va
s'y faire. Et ça, tu vois, l'impact qu'il va devoir mettre défensivement, il est tellement important offensivement que ça va me faire peur un peu pour l'autre côté, si on est un peu dans le domaine de l'énergie. Donc...
Mais on peut aussi le renverser, c'est-à-dire que l'attaque des Celtics, personnellement, je la trouve pas flamboyante non plus sur demi-terrain. C'est-à-dire que effectivement, quand Jason Tatum se réveille, comme tu le dis, Jason Tatum et Jalen Brown, grosso modo, tu dépends du shot-making de tes deux stars. Alors effectivement, ça a été plutôt efficace sur le game set, et tant mieux, sur la série. Mais passer ça, si de l'autre côté, le Heat arrive à trouver la solution à empêcher Tatum et Brown de mettre leur tir, tu vas te retrouver à dépendre de la réussite de Marcus Smart, d'Eric White, de Al Horford, qu'il a fait sur une série, pourquoi pas, de Grant Williams.
Ah, c'est bon,
une grande série Grant Williams versus Max Strus, tu vois, ça va être peut-être ça qui va décider du sort de la série, qui de Max Strus ou de Grant Williams va mettre plus de tirs extérieurs et soulager ses stars. Bon, je schématise et je caricature, évidemment. Mais c'est pour ça, on revient à ton constat, Tom, quand on commençait à parler de cette série. C'est vrai qu'on risque de voir quelle défense arrive à prendre le plus le pas sur l'attaque adverse. C'est une série de défense, finalement.
Oui, c'est ça. Et quelque chose qui va être intéressant, on parle de série de défense, là, on aura peut-être le retour de Robert Williams, qui normalement devrait être en tenue. Et je pense que ça leur fera pas de mal, puisque Al Horford a pas mal baissé de pied après son début de série face aux Bucks. Peut-être que lui, l'enchaînement des matchs lui a pas fait beaucoup de bien. Donc du coup, va falloir pouvoir le soulager un petit peu, et quitte à avoir des minutes avec les deux Williams dans la raquette. Après, je pense que par rapport à ce qui s'est passé il y a 2 ans, on risque pas de voir beaucoup Daniel Theis dans cette série-là, parce que je pense qu'il doit faire des cauchemars de Bam encore aujourd'hui. Donc je pense que Al Horford, ça va être un joueur clé de la série, et le banc, c'est-à-dire que comment... quand tu rentres, par exemple, quand tu vas rentrer ton Payton Pritchard, quand tu es Boston, comment ça va se passer par rapport à Miami, si Miami se ramène avec du Victor Oladipo, se ramène avec du du Tyler Hero, des joueurs comme ça, en fait, des joueurs qui ont de l'impact, qui peuvent aller, qui peuvent dribbler et se créer leur propre shoot. Puisque là, ça va être ça, hein. Va falloir pouvoir dribbler, passer et shooter dans cette série-là. Là, t'as pas le choix.
C'est vrai que sur les profils des bancs, c'est vrai qu'un réveil de Victor Oladipo peut aussi être un effet bascule, parce que c'est vrai que sur le banc, bon, c'est Derrick White et Peyton Pritchard que tu opposes grosso modo à Oladipo, Tyler Hero. Donc sur le papier, t'as envie de donner l'avantage au Heat, même si Peyton Pritchard fait quand même une très belle série, un très bon début de playoff, etc. Mais on en revient à cette problématique-là. Même du côté des bancs, ça va être qui va avoir le shot-making, la capacité sur demi-terrain, tu l'as dit, hein, à créer et à scorer.
Je me demande si c'est pas aussi si on va pas mettre beaucoup de pression sur les capacités de playmaker des stars. Parce qu'il n'y a pas de créateur des deux côtés. La création des deux côtés, c'est de la création collective. C'est un truc dont on avait beaucoup parlé pour Miami en finale, quand on avait fait nos podcasts de finale. On expliquait qu'en gros, une des différences fondamentales entre Miami et les Lakers, c'est que les Lakers avaient des mecs capables de créer pour les autres en dehors du système, là où Miami pouvait pas le faire.
C'est pour ça que j'en fais venir Laurie à la base, quand même.
Et c'est pour ça. Et si Laurie est pas là ou est là de manière sporadique ou pas à 100%, ben, ça va être très important de voir comment un mec comme Bam, ce qu'il aime bien faire, ou un mec comme Butler peut créer pour les autres. Tatum l'a fait sur séquence contre les Bucks et ça a été très important. Une des évolutions que j'attends, moi, de Jason Tatum, je parlais beaucoup de son contrôle dans le dernier DH20, j'attends aussi qu'il soit capable d'alterner création et scoring de manière plus rapide. C'est-à-dire que parfois, il va délaisser le scoring pendant deux quarts temps pour faire du playmaking et ensuite va reprendre le scoring comme un fou furieux pendant deux quarts temps. Par touche, qu'il arrive à alterner. Alors, c'est très compliqué parce que c'est un truc de méga star que je lui demande.
Là, tu lui demandes de faire du Doncic, quoi.
Moins fort, parce que je sais que c'est pas son... Mais d'être 75-25, quoi. Parce que ça marchera pas comme en face. Enfin, il n'y a pas Grayson Allen en face. Les gars, Grayson Allen, il donne 15% de la série. Il y a pas de Grayson Allen en face cette fois-ci. Il y a pas un mec injouable. Donc, il va falloir que Tatum, Brown, je pense qu'il est moins évolué à ce niveau-là, créé pour les autres aussi.
Ouais, bah, c'était la grande question. Mmh. C'était le grand coup de gueule de Marcus Smart en début de saison. Ce qu'il demandait à ces deux stars. Mais ils ont l'air de progresser aussi. Mais je suis d'accord avec toi. C'est peut-être sur la fluidité avec laquelle ils font ça, tu sens que c'est réfléchi. Il y a des moments où ils disent « Ah oui, c'est vrai, mince, il faudrait que je crée aussi, parce qu'il ne faut pas que je fasse que prendre des shoots. » C'est vrai qu'il y a un côté caricatural. Alors, effectivement, moi, j'en rajoute, hein, bien sûr, mais c'est vrai qu'on peut ressentir ce côté caricatural et il y aura besoin d'être plus fluide, parce qu'on a parlé de cette guerre de tranchées, cette guerre peut-être de coach, d'équipe, etc. Mais sur le terrain aussi, ça va être à la prise de décision des joueurs que peut se jouer cette série. Et peut-être qu'un Jimmy Butler aura un part avec un petit avantage, mais ça a poussé fort en face.
Après, c'est vrai que, enfin, Butler, on l'a souvent vu un peu comme meneur. C'est ça qui est, enfin, moi, ce que je trouve, l'une des choses pour lesquelles je trouve qu'on donne peut-être pas assez de crédit à Jimmy Butler, c'est ses capacités d'adaptation durant le match.
Oui, c'est ça, c'est ce que je
voulais dire. C'est-à-dire que, dans le même match, il est playmaker, après il est scoreur, après il devient défenseur de premier rideau, après tu peux le voir se reposer un petit peu et laisser venir, tu vas le voir plus dans la pose d'écran pour d'autres, tu vas le voir faire des cuts. En fait, il regarde ce qui se passe sur le terrain et en fait, en fonction de comment le jeu évolue, ben lui, il s'adapte et il apporte des choses que son équipe n'a pas à chaque fois. Et ça, c'est quelque chose faut lui donner beaucoup de crédit. Quand l'équipe a besoin de scoring, il score. Quand l'équipe a besoin d'un gros shoot, il prend le shoot. Quand l'équipe a besoin de stopper, par exemple, Tyrese Maxey, ils avaient un problème avec la vitesse de Tyrese Maxey.
Il se met en mission.
On a mis Butler sur lui. Il y avait de la vitesse, mais c'était beaucoup moins contrôlé. Donc, du coup, tu vois, c'est un peu ça. Toute la polyvalence, en fait, toute la polyvalence de Jimmy Butler et le fait qu'il soit. Même si on parle généralement de joueurs polyvalents, là, quand tu as un joueur polyvalent, on va lui reprocher d'être excellent en rien. Sauf que Jimmy Butler, il est polyvalent, mais il est encore excellent dans beaucoup de choses dans sa polyvalence. Et ça, c'est quelque chose dont on parle pas forcément quand on parle de Jimmy Butler, mais c'est quelque chose pour lequel il faut lui donner beaucoup de crédit.
Oui, parce que je prends une comparaison un peu facile, je vais prendre celle de Kawhi, parce qu'on est un peu sur le même type de poste et de gars qui étaient connus comme défenseurs à la base et qui sont devenus des gars responsabilisés et à la base de leur attaque, etc. Où, petit à petit, chez Kawhi, bon, on verra quand il revient, on espère en pleine santé bien sûr, Mais l'attaque a pris le pas sur la défense chez Kawhi. Kawhi, il défend maintenant plus sur sa... Enfin, sa réputation le précède, on va dire, plus que ses qualités de défenseur. Là où Butler, peut-être justement en alternant ce qu'il fait sur un terrain, mais est par séquence un défenseur sur l'homme élite, comme il l'a été, voire même meilleur, parce que, avec de l'expérience, que ce qu'il a été ces années Bulls, on va dire ça comme ça. Quoi. Et c'est vrai que c'est du crédit. Tu l'as très bien résumé, Tom. Je n'avais pas trop comment mettre en avant ce côté-là de Jimmy Butler, mais c'est peut-être ça qui le rend, en tout cas sur le papier, le meilleur joueur peut-être sur le terrain, en tout cas à l'entame de cette série.
Par contre, là où je pense qu'il peut peut-être avoir des problèmes, c'est s'il se met à faire du bully ball contre cette équipe-là. Faire du bully ball contre Boston, je ne sais pas si ce sera la bonne stratégie.
Écoutez, on va se poser la question en bonne et due forme, puisqu'il nous reste 5 minutes avant d'arriver à l'heure. Donc ça y est, on a un peu mis... Oui, ce qu'on ne respecte plus vraiment, mais à peu près, histoire d'être autour de l'heure, on va dire. On a mis sur le papier, on a parlé des 4 équipes encore en lice, alors effectivement, moins dans la profondeur que quand on a un podcast dédié à une seule équipe, mais on est en plein playoff, on est en plein dans la hype, nous avons les forces en présence, c'est l'heure de se mouiller, de peut-être se ridiculiser après coup, une fois les résultats donnés, de parler... de qui on aura en finale NBA, avant peut-être de parler même du champion. Retournons à l'Ouest pour commencer. Mavs, Warriors, Ben, pronostic.
Warriors en... Luca, il est jeune, mais j'ai déjà pas envie de parier en 7 contre lui, tu vois. Je commence à avoir des traumatismes. je vais dire qu'il les termine en 6, mais je suis pas serein. Je dis Warriors en 6.
Tom,
moi je dirais Warriors en 7, mais je suis pas serein du tout. Après je sais pas à quel point c'est du coup du biais de récence par rapport aux deux derniers matchs des Mavs, puisque si on prend les deux premiers matchs de la série, cette version des Mavs là, elle existe toujours, tu vois.
Ouais, bien sûr. Mais il y a aussi le Golden State sur les séquences où ils perdent contre Memphis en taillé son meilleur joueur.
Ouais, mais Maxi Kleber pourra pas être à 73% de son shooting pendant tous les playoffs, c'est pas possible.
Sur un malentendu. Non, mais j'ai la place facile parce que du coup, je donne mon prono en dernier. Mais effectivement, en vrai, si je devais mettre la raison de côté, j'aurais envie de vous dire Dallas en 7. Mais par rapport au match-up et par rapport à ce que t'as dit, Tom, il y a un moment donné, Maxi Kleber, Finney-Smith, Bullock, Dinwiddie, ça va quand même redescendre sur Terre. Enfin, j'imagine. Au moins un. Donc j'ai envie de dire aussi Golden State en 6, parce qu'effectivement en 7, j'ai trop peur du 7. Si ça va en 7, voilà, le prono c'est si ça va en 7, je mettrai la piécette Dallas. Voilà pour penser. Cette...
Ah ouais, ouais,
mais c'est 7, en vrai, on devrait réactualiser notre théorie du meilleur joueur, on doit l'activer pour le match 7. Genre, tu veux pas entrer dans un match 7 quand tu as pas le meilleur joueur. Parce que c'est vraiment un désastre.
Ouais, mais après, tu vois, il y a cette théorie du deuxième, etc. C'est-à-dire que là, du côté des Warriors, on a joueurs... Enfin, la différence 1, 2... Enfin, puis après, en fait, 2, 3, 4, 5. Je vais peut-être un peu loin, mais après, oui, bon, tu vas voir Curry, Dre, Poole, peut-être. Wiggins, All-Star, Andrew Wiggins. Je le rappelle, qui en plus fait une super série, hein, faut le dire. Et là, il est bon, hein, Andrew Wiggins. En ce moment, bref.
Après ça dépend, parce que dans les rôles qu'ils ont à jouer, par exemple des gars comme Bullock et Finney Smith, dans leur rôle, en fait,
oui, c'est vrai que
c'est limité, All-Star, oui, en fait, oui. Dans leur rôle, parce que des mecs qui ont un tel niveau de défense et qui shootent à quasiment 40% à 3 points sur 6 tentatives et qui jouent autant de minutes, ils jouent presque, c'est les joueurs qui sont numéro 1 et 3 au nombre de minutes depuis le début des playoffs, et il t'apporte de la grosse défense, du 3 points, et il manque pas un match. Ils sont toujours bons. Ils sont toujours bons.
Et on l'a pas évoqué, il manque quand même un mec dans cette rotation des Mavs, notamment. On l'oublie parce que Brunson et Dinwiddie mettent des tirs, mais normalement, il y a Tim Hardaway qui se glisse dans ces minutes-là. Alors, je sais pas si on peut... Oui, non, mais tu fais cette tête, Tom. Non, mais Tom, Tim Hardaway ou Spencer Dinwiddie?
Ah, c'est deux mecs qu'il aime,
voilà,
pas.
Voilà. Donc, je sais, c'était fait exprès. Non, mais effectivement, ça peut se jouer à ça. C'est vrai que si on a toujours Spencer, Michael Jordan, Dinwiddie, comme tu disais, Ben, ça change. Si, qui de Spencer Dinwiddie ou Jordan Poole est plus proche de Michael Jordan sur cette série, ça pourra.
Il y a beaucoup, on met beaucoup en lumière l'affrontement entre Poole et Dinwiddie. Deux choses. Poole, c'est pas une pièce en l'air comme l'ami Spencer. Et deuxième chose, il est moins déterminant pour le succès de son équipe que l'ami Spencer aussi. Hein, parce que si l'ami Spencer fait une série comme le souhaiterait Tom à l'ouest, enfin dans le sens à la rue, il gagne pas la série. Enfin, hein, ils ont pas une chance.
C'est possible. Après, il y a quand même des séquences Golden State où ça prend des tirs, ça joue sur son shot creating, son shot making, et des fois, bon, hein, parce que Clay, il a pas pris que des bons tirs. Il les a mis heureusement à la fin pour Clay Game 6, mais bon, c'est pas les tirs les plus intelligents non plus.
Ah oui, bref. Alors oui, je dis 6, c'est pour ça, Clay Game 6, vas-y.
Ah mais oui, bah voilà, Clay Game 6 ou Luka Game 7. Bon, voilà, bah, au moins on va pouvoir éclater le chrono puisqu'on a continué à ouvrir des parenthèses sur cette série. Passons de l'autre côté, donc bon, on a à peu près tout sur Golden State pour celle-là, même si il y a toujours un astérisque. Miami-Boston, alors là, Miami-Boston, et je vais encore m'offrir le luxe de donner le pronostic en dernier.
J'y vais en premier du coup, comme Ben a donné son pronostic en premier tout à l'heure. Moi, je dirais Miami en 7 à l'usure, vraiment à l'usure.
Ah, ça serait dur.
J'ai envie
Ben,
de dire
un grand sourire.
J'ai envie de dire une dinguerie, mais je sais. En vrai, je m'écoute, je dis Celtics en 5, mais je vais dire Celtics en 6 par la raison. Mais honnêtement, je serais Elon Musk, j'aurais 41 milliards à dépenser. Je les dépenserai pas sur Twitter, mais sur les Celtics en 5, tu vois.
Ouf.
Ouais.
Les gars, il y a des séquences contre Atlanta.
Il y a un grand écart.
Ils mettent pas un point.
Oui, je suis d'accord.
Moi, ça m'a traumatisé, hein, je suis désolé.
Ah, mais là c'est une série où je suis trop partial. Donc, je m'en fous, je vais rester comme ça. Miami en 7 aussi. À l'usure, la même que Tom. Miami en 7 parce que Jimmy Butler. Au bout d'un moment, je pense que Boston... Ah, tu vois, on a évoqué cette série face à la bulle. Je pense que là, ça va revenir dans la tête. À un moment donné, un espèce de grand run de Gabe Vincent et Max Strus. On va voir Alan avoir des PTSD, justement. Et ce sera pareil pour les joueurs de Boston. Et du coup, ils craqueront à l'usure, mais à l'usure mentale. Ça voilà, peut... C'est histoire de donner un pronostic, évidemment. Hein, de toute façon, on verra qui pourra faire le malin si c'est Boston en 5. On n'a pas fini d'en entendre parler, je crois, Tom. Donc, prépare-toi. Bon, voilà pour ces... Pour ces finales de conférence, on aura des finales NBA. Je pense qu'on se garde le pronostic pour quand on aura la vraie affiche. On aura le temps d'en reparler. On pourra aussi faire les post-mortems. C'est probable que cette semaine, vous ayez un post-mortem de quelques équipes qui sont sorties aujourd'hui, dont une qui est sortie avec les déshonneurs hein, quand même. Le Game 7. Je suis désolé d'insister à tous les fans des Suns, mais vraiment.
Il y a un moment dans le podcast, tu vois, t'as dit Adrien, le match était fini à la mi-temps et c'est vrai. Non, mais il était fini à la mi-temps. Ouais. À la mi-temps.
Il y a 57-27, les mecs.
57-27, les gars.
Il n'y a que 10 à la sortie du premier quart. Il y a 27-17, il me semble, si je ne dis pas de conneries. Et après, il y a un 30-10 passé dans le deuxième quart.
Mais qu'est-ce qui se passe? J'étais devant mon League Pass, les gars, je me disais, mais il se passe quoi? Je ne comprends pas ce match.
Enfin... Imagine que toi tu l'avais en accéléré, etc. Nous on était là avec tous les temps morts pendant les pubs, se dire mais oh là là, c'était surréaliste. Donc forcément, je réitère mes excuses auprès des fans des Suns, évidemment, ça va pas être évident, mais c'est quand même un match qui aura marqué cette semaine. La preuve, on finit par là, c'est que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. On aura le temps d'en reparler de ça aussi.
C'est leur première, leur seule et unique défaite à domicile en play-off.
Eh ben, elle n'est pas piquée des hannetons, comme on dit.
Non, mais je pense que c'est un match qui va nous marquer dans le sens vraiment, dans le côté paranormal, genre on n'a pas compris ce qui s'est passé pendant une mi-temps. Je pense qu'il y aura vraiment de ça.
Et puis c'est le genre de match qui marque, on parle souvent de culture, on parlait là de l'aspect psychologique pour Boston, etc. Ça, c'est quelque chose, je pense, que du côté de Phoenix. Alors là, c'est concentré sur Chris Paul. C'est un peu dur pour lui effectivement, mais je pense que les autres ils risquent d'en réentendre parler quand on parle d'équipe de saison régulière, etc. Ça c'est quelque chose, ça risque de peser fort. Alors j'espère pour eux qu'ils vont passer outre, mais en tout cas au niveau des commentateurs, on risque d'en entendre parler. C'est une série dont on se souviendra, je pense qu'on pourra en parler encore dans 10 ans quoi. Bref, on va abréger les souffrances des fans des Suns pour maintenant, on va plutôt se concentrer donc sur les finales de conf qui vont arriver. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici. Je vous rappelle une nouvelle fois, n'hésitez pas à nous rejoindre plus que jamais sur Twitter, à échanger avec nous pour les matchs. Maintenant, il y a un match par soir, c'est plus large. On a un peu plus de temps pour discuter, un peu plus de temps pour dormir aussi. Tant mieux, donc n'hésitez pas à échanger avec nous, avec nos CM, Gabin et Antoine, évidemment, qu'on salue sur Twitter. À nous rejoindre comme d'habitude, à nous mettre les notes qui font plaisir sur vos plateformes de podcast préférées, sur Acast évidemment. Et puis, puis sur YouTube, si vous voulez voir les têtes déconfites de Tom quand on dit Spencer Dinwiddie, ou les grands sourires de Ben quand on dit des bêtises.
Le pire, c'est que je le fais pas exprès. Hein.
C'est, ah, mais c'est quand ça vient du cœur.
C'est un truc de ouf.
En tout cas, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. On se retrouve très très vite pour un nouveau podcast. Et puis, bon play-off.
Et bah bon, bonne finale de conférence. C'est quand même, on arrive bientôt à la fin, donc faut en profiter. Et puis merci Adrien pour cette superbe présentation, parce qu'en ce moment c'est difficile de présenter, on dort pas beaucoup, on enchaîne les matchs, c'est compliqué, donc merci Adrien.
Mais avec plaisir, et merci à toi Tom aussi.
On se dit
salut,
tout à l'heure. Salut,
exactement. Ciao.
Salut.